BFM Business et la CPME présentent Impact PME. Les experts se mobilisent avec Philippe Bloch.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale PME, bien sûr dans le cadre de cette journée Impact PME, avec 10 experts, 10 professionnels à mes côtés pendant une heure, avec lesquels on va explorer une large palette de solutions pour essayer de faire face aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs, qu'ils soient de TPE ou de PME, dans cette période exceptionnelle. Et comme le temps presse, on attaque tout de suite avec mes 3 premiers invités. J'ai le plaisir d'en avoir 2 sur le plateau et 1, j'espère qu'on le voit déjà dans un écran, on va l'accueillir tout de suite. Ah, tiens, je vais commencer par lui, par Pierre Goguet, qui est président de CCI France et qui nous rejoint via Skype. Bonjour Pierre, est-ce que vous nous entendez bien ?
Parfaitement, bonjour à tous.
Eh bien, bienvenue sur ce presque plateau sur lequel je suis entouré de Isabelle Saladin. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Isabelle qui est présidente des rebondisseurs français et d'IS Advisor. Je vous dirai dans un instant ce que sont ces deux entités qu'elle représente. Et puis, on a un représentant de l'APEC en la présence de son directeur général adjoint, Philippe Dialinas. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
On va parler bien sûr des cadres et de leur état d'esprit en ce moment, je le répète, dans cette période très spécial. Et alors justement, c'est intéressant parce qu'on va démarrer par le rebond, puisque tout le monde ne parle que de rebond, le futur rebond, préparer le rebond, etc. C'est en grande partie d'ailleurs l'objectif de cette émission Impact PME. Isabelle, vous êtes un entrepreneur, serial entrepreneur, vous avez déjà créé 3 fois et vous êtes la cofondatrice en fait d'une association qui sont les rebondisseurs français, créée par 4 de vos copains entrepreneurs.
C'est ça.
Votre histoire, c'est que vous rentrez des États-Unis à un moment et vous dites pourquoi est-ce que la France n'aime pas l'échec et pourquoi on valorise pas le rebond, dont vous considérez que c'est une richesse.
Bah, c'est une grande richesse. En fait, en tant que chauvine, et je dois l'avouer,
j'ai chauvine américaine ou
chauvine française.
Non, parce que vous avez passé.
Non, mais très bien. Je n'ai rien contre les Américains.
Vous avez passé un tiers de votre vie aux États-Unis. Je le précise quand même.
Exactement.
Ça façonne un mental.
En fait, j'ai toujours été surprise de voir que dans un autre continent que le mien, cette valeur de l'échec, en fait, c'est même pas un sujet l'échec. La valeur du rebond, la façon de rebondir, était considérée comme une valeur économique incroyable. Les entrepreneurs qui rebondissent à chaque expérience sont dragués par toutes les entreprises pour être embauchés, là où nous, on est plutôt montré du doigt, on a plutôt honte, et en fait, on ne met pas cette valeur économique majeure, cette expérience, en fait, le rebond est égal à l'expérience, en route pour relancer la machine. Et il n'y avait pas le Covid à l'époque.
Donc. Est-ce que ce n'est pas un problème de terminologie ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas parler de rebond que d'échec, finalement,
pour
institutionnaliser ce qu'on apprend de ce type d'expérience ?
Vous prêchez une convaincue, l'échec, c'est juste un détail de ne pas réussir.
Oui.
Tout l'intérêt et tout l'important, c'est le rebond. C'est comment on rebondit, ce qu'on a pris comme expérience et comment on s'en sert pour la suite.
Alors, vous êtes soutenu en fait par une grande mutuelle qui est en fait qui appartient au groupe Vive, qui est Harmonie Mutuelle, qui est la mutuelle, je crois, des entrepreneurs et des entreprises au sein du groupe Vive. Qu'est-ce que vous proposez et qui fait quoi ? Puisque vous êtes déjà à peu près 900 membres, vous n'arrêtez pas de grandir en plus en ce moment.
En deux ans et demi, c'est vrai qu'on a été surpris quand on a créé ça. Et je vous cache pas, le soir et le week-end, en plus de nos entreprises, on n'a pas.
Oui, parce que vous êtes bien sûr, c'est votre autre entreprise.
Et en fait, on a été très très surpris d'avoir déjà une communauté de 900 entrepreneurs de tout type. C'est-à-dire entrepreneurs indépendants, TPE,
PME. Qui ont échoué ou pas qui ont échoué ?
Pas forcément.
Qui veulent juste aider ?
Qui veulent surtout anticiper. On l'a remarqué,
d'accord.
Là, on a connu plus de 200% d'adhérents de ces 6 derniers mois, la crise de Covid sûrement oblige.
Oui.
Et en fait, la majorité n'étaient pas des entrepreneurs qui voulaient rebondir après un échec ou après un non-succès, mais des entrepreneurs de tout type qui voulaient anticiper. C'est-à-dire, ok, je sais que ça va être dur.
Anticiper.
Ça veut dire qu'on ne va pas se mentir et qu'on sait très bien que 2021 va être une année
où il y aura des douleurs.
Où il va y avoir des douleurs. Si on ne peut pas dire année noire pour être politiquement correct, on va dire que ça va être très compliqué 2021.
Et qu'est-ce qu'on leur apporte ? Parce que ça veut dire quoi anticiper ? Quels sont les outils de l'anticipation ?
La première chose, on leur apporte déjà de la proximité. Parce qu'avec Harmonie, on est partout en France. Ce n'est pas quelque chose de parigo ou très parisien centré. C'est partout en France. Et on les soutient dans les bons et les mauvais. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vient chercher en fait chez les rebondisseurs ? Un, c'est de pouvoir parler avec des pairs et s'entourer des pairs. Parce que la pire chose dans les moments, et là je l'ai vécu,
c'est la solitude.
C'est la solitude.
Et le déni peut-être aussi, de ne pas pouvoir en parler.
C'est surtout la solitude et l'ego. Je pense qu'il y a un sujet au niveau de l'ego dans notre culture, on ne va pas se mentir. J'en ai fait les frais à titre personnel.
Il y en a en ce moment aux États-Unis qui a un problème d'ego par rapport à son futur rebond, effectivement.
Comme quoi, la roue tourne, chacun les mêmes.
Peut-être qu'on pourrait lui donner ses coordonnées des rebondisseurs français. Il y aura peut-être les rebondisseurs américains.
Ben, pourquoi pas. Mais la première chose, c'est vraiment échanger avec des pairs, c'est se faire accompagner. C'est pas que des blabla, en fait. Moi-même, je le fais, en fait, dans mon entreprise. Donc, c'est vraiment du concret. Et trouver des outils. des outils comptables, des outils financiers, des outils juridiques qui sont gratuits en fait au sein des rebondisseurs, parce qu'on a beaucoup négocié avec quelques partenaires, et on sait lesquels sont importants pour rebondir, on sait lesquels peuvent être des freins, et on met tout ça en place au sein des rebondisseurs.
Tout type, toute taille d'entreprise est concernée.
Toute taille d'entreprise est concernée.
C'est qu'ils ont une expérience commune, à un moment il faut se réinventer.
Ils font le même job, donc on va, ouais, voilà, on va partager, on va aller de l'avant ensemble.
On dit très vite un mot de IS Advisor, qui est sous-titré entrepreneur, copiloting entrepreneur. Ça veut dire quoi ça?
C'est bien regardé. C'est un concept en fait, ça vous fait rire, anglo-saxon, que j'ai apporté en France. Encore une fois, je les trouve très pragmatiques, pas plus intelligents que nous, mais beaucoup plus pragmatiques. En fait, c'est une entreprise qui est composée uniquement, alors, de serial entrepreneurs, on va éviter le mot galvaudé, très marketing, oui, mais de personnes qui ont créé de zéro plusieurs entreprises,
oui,
qui ont mis les mains dans le cambouis, qui ont tout connu. Il y a des hauts, des bas, on sait très bien ce que c'est que la vie d'entrepreneur. Et qui aujourd'hui, qui ont vendu leurs actifs, mettent leurs compétences avec les chefs d'entreprise d'aujourd'hui pour passer les vagues. Que ce soit une vague de fusion-acquisition, une vague de pivot de modèle économique, une vague de structuration, en connaissance de cause, de savoir ce que c'est.
Merci Isabelle. Merci Saladin. Vous. Je me tourne vers vous, Philippe Dialinas, par rapport à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Rappelons peut-être à ceux qui connaissent peut-être le nom, mais s'ils n'y ont pas encore fait appel, en quoi consiste l'activité de l'APEC?
Alors l'APEC, elle a plusieurs missions. La première, c'est d'accompagner en particulier les entreprises, en particulier TPE, PME, à recruter, à optimiser leur recrutement et leur gestion de leurs talents internes, de leurs compétences. La deuxième mission, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés tout au long de leur parcours professionnel,
tout au long de leur vie. Pas uniquement quand on cherche son premier job, etc.
On peut être aussi actif salarié et se poser des questions sur un projet d'évolution professionnelle. L'APEC est opérateur du conseil en évolution professionnelle.
Bien sûr.
En ce sens, donc effectivement, ça touche aussi les actifs salariés et évidemment l'insertion des jeunes diplômés issus d'un enseignement supérieur.
Alors, elle a des clients parce que les entreprises sont clients de l'APEC.
Oui, hein, tout à fait.
Et des individus clients aussi. On peut être client à titre particulier également, ou c'est un service gratuit ou payant?
C'est un service gratuit. Aujourd'hui, tous les cadres cotisent, ainsi que les entreprises qui recrutent et qui ont des cadres dans leurs effectifs.
Alors, vous êtes un fabuleux observatoire de l'état d'esprit des cadres. Comment évolue-t-il? Je sais qu'il y a une étude récente dont vous nous avez apporté quelques chiffres qui montrent quand même que globalement, ils sont inquiets pour la sécurité de leur emploi.
Il y a 30%
qui sont... Peut-être faudra-t-il qu'ils se préparent, comme le rappelait Isabelle, à envisager un éventuel rebond.
Il y a 30% qui sont très inquiets par rapport à la situation économique de leur entreprise. Et puis, ça a eu pour effet aussi que... Finalement, les projets d'évolution professionnelle, les réflexions de projets d'évolution, de projets de vie aussi,
ils sont stoppés,
suspendus. Ouais. Donc, ce qui fait que les cadres actifs salariés aujourd'hui en poste, ils sont inquiets, mais en tous les cas, par prudence, par précaution, ils restent dans leur emploi et ils ont suspendu leur projet.
En termes d'âge, est-ce qu'il y en a des plus inquiets que d'autres?
Les seniors sont beaucoup plus inquiets, évidemment, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont une crainte de perdre leur emploi actuel par rapport à la situation économique de leur entreprise.
Il y a une dimension psychologique dans ce qu'apporte l'APEC, parce qu'on voit bien que de plus en plus on commence à être inquiet pour la santé mentale des Français confinés, pour la santé mentale des entrepreneurs qui sont dans l'angoisse de peut-être perdre leur entreprise. Est-ce que là-dessus vous avez des actions ou pas au sein de l'APEC?
Et déjà l'écoute. L'écoute, le conseil, la proximité. Aujourd'hui, l'APEC est majoritairement en délivrance de services à distance. Nos collaborateurs sont en télétravail. Mais nous sommes aussi ouverts pour les personnes qui en ont le plus besoin de proximité, d'écoute. Il ne faut pas rester seul dans ces moments-là. Il faut partager, il faut être à l'écoute du marché, il faut être conseillé. Et donc ça, c'est important.
Vous m'avez également donné quelques chiffres sur les secteurs qui embauchent peut-être plus que d'autres. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots justement actuellement? Parce que d'abord, est-ce qu'on continue à embaucher en ce moment, ou est-ce que c'est comme en matière du marché immobilier, on dit que les visites sont arrêtées, est-ce que les embauches sont arrêtées ou pas en ce moment?
Alors, on a actualisé les prévisions d'embauche pour 2020 en septembre. Effectivement, c'est une baisse historique, moins 40% de prévisions d'embauche par rapport à 2019. Alors 2019 était une très belle année en termes de dynamique de marché.
Donc il faut relativiser.
Mais c'est la brutalité qui est nouvelle et qui est historique.
Et puis l'incertitude, c'est probablement ce qui est notre pire menace et notre pire cauchemar du matin en ce moment. J'imagine que pour les cadres, sur leur carrière, c'est terrible de n'avoir aucune idée de ce qui peut se passer dans les quelques mois, voire semaines à venir.
Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est le bon moment aussi de réfléchir. C'est-à-dire que, paradoxalement, on a des cadres qui, pour un tiers d'entre eux, envisagent une évolution professionnelle dans l'année qui vient, c'est-à-dire 12 mois. Et ça se prépare, et c'est le bon moment, évidemment, de réfléchir, de s'informer éventuellement de se former, hein, de mobiliser son compte personnel de formation.
Absolument.
Juste avant, effectivement, d'avoir un conseil d'évolution professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cadres qui sont dans des secteurs qui vont éventuellement s'effondrer. Et l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, vu mon parcours, vu mes compétences, où je peux me projeter ? Vers quel autre secteur, vers quel autre métier je peux me diriger? Et ça, ça se travaille, ça s'étudie et ça se prépare. C'est ce que je vais appeler la transférabilité des compétences. Alors évidemment, on parle des soft skills.
Soft skills.
Voilà, partout. C'est des choses qui sont importantes. Il y a des compétences qui sont transférables d'un métier à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc oui, il y a des secteurs qui vont s'effondrer, mais il y en a d'autres effectivement qui vont émerger. Aujourd'hui, il y a des entreprises, pour répondre à votre question, qui recrutent.
Ouais.
Et paradoxalement, qui ont des difficultés à recruter.
Bah, comme avant, 10, comme avant Covid.
Comme avant, tout
ça,
à fait.
Ça reste depuis longtemps. Je vais me tourner vers Pierre Goguet. Juste une rapide réaction d'Isabelle Saladin. Est-ce que savoir rebondir aujourd'hui, c'est un soft skill?
Ah, c'est un grand soft skill. On appelle ça la résilience, je crois.
C'est le mot du moment.
Mais en fait, c'est assez basique. Oui, c'est prendre les choses telles qu'elles viennent, comment on analyse et comment on passe à l'étape d'après.
Pierre Goguet, vous êtes toujours avec nous?
Oui, toujours.
Vous nous écoutiez. Je suis ravi de vous retrouver puisqu'on a déjà été ensemble dans une mission Impact PME il y a de cela quelques semaines où je vous avais posé un petit peu la question de savoir comment les chambres de commerce, dont on sait qu'elles accompagnent beaucoup, beaucoup les entrepreneurs à la création, mais aussi tout au long de leur vie, en ce moment sont mobilisées justement pour favoriser ou permettre ce fameux rebond qui est le mot du moment. Où en est-on, même par rapport à il y a quelques semaines où on s'est rencontrés? Quel est l'état d'esprit tel que vous le percevez de votre propre observatoire que sont les chambres de commerce françaises?
Alors écoutez, il y a eu deux étapes. Une étape au moment de l'annonce du plan de relance de ces mesures, même si quelque part elles sont conditionnées par exemple le vote de la loi de finances, on a vu remonter évidemment la confiance des entrepreneurs parce que ce plan de relance, faut bien le dire, est assez puissant, a sorti de nombreuses mesures et on a une enquête qui montrait que plus de la moitié des entrepreneurs, finalement, ça leur a redonné confiance, un peu de visibilité. Ça, c'était avant le reconfinement. Et le reconfinement est tombé là-dessus, et je vous avoue qu'alors même que l'on était évidemment engagé dans un plan de relance avec des volumétries importantes, hein, puisque par exemple, sur les trois chantiers essentiels qui nous ont été donnés en priorité, à savoir la transformation numérique, l'écologie, l'entreprise en difficulté, et puis un focus sur l'industrie, sur ces trois chantiers-là, quelque part, on en avait réalisé un complètement avant le confinement, à la demande de la ministre qui est d'appeler plus de 30 000 entreprises industrielles et de les accompagner ou plutôt de leur mettre en avant les atouts du plan de relance. Plus de 6 000 d'entre elles d'ailleurs doivent aujourd'hui, ont choisi des outils pour qu'on les aide à les accompagner, mais tout ce que l'on avait fait en diagnostic numérique, etc., est finalement bousculé par l'urgence de la situation aujourd'hui, où en fait on vient de diffuser, plutôt qu'un diagnostic numérique, etc., qui en réalité existe toujours, un véritable SOS numérique commerce, avec quelque part un kit minimal de survie pour les commerçants qui, notamment, ne s'était pas approprié ces outils. Comment faire vite, avec facilité et quelques éléments importants? Donc évidemment, on a mis en place, notamment pour les secteurs fermés, l'habillement, la chaussure, le jouet, évidemment les livres, des outils quelque part qui sont, alors évidemment le click and collect, on se l'est approprié et on l'a diffusé, vous savez que les chambres l'avaient porté très tôt.
Absolument.
Et là, le process de déroulement, vous savez que nous demandons, mais pour l'instant, avec regret, on ne l'a pas obtenu, au minimum l'ouverture sur rendez-vous des commerces.
C'est dans les tuyaux, effectivement, dans les discussions actuelles.
Mais on l'a demandé. Aujourd'hui, on sait que la communauté entrepreneuriale du MEDEF à la CPME, à l'UDP, nous appuie là-dessus. Mais évidemment, la contrainte sanitaire fait que pour l'instant, le Premier ministre ne nous a pas encore entendus. Après, on est sur, évidemment, la mise à disposition de toute une série de marketplaces qui ont été développées parfois de manière régionale. Je pense en bas de Marue, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, à Chaville, etc. On est sur un partenariat plus national avec effectivement des outils comme celui de La Poste qui gère très très bien les problèmes logistiques. Et l'idée, c'est de permettre à en ayant un commerçant au bout du téléphone ou en visio, de le guider pas à pas pour qu'il installe son commerce sur ce genre d'outils, sachant qu'on sait très bien que ça ne rend remplacera pas l'ouverture nécessaire de ces commerces. Mais ça sera 30-40% du chiffre d'affaires. Et évidemment, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est l'appropriation de ces outils, cette transformation, elle n'a pas vocation à être de courte durée. Pour nous, on l'installe dans le temps. Donc on accompagne ça de formation, avec des webinaires, etc. Et évidemment, on est sur des problèmes de recrutement qui viennent d'être évoqués. Regardez, dans l'industrie, où on a fini de faire 30 000 appels et où on a classé tout ça par item, l'item numéro 1 qui remonte d'entreprise dans cette période-là, c'est la recherche d'emploi et de compétences. On est dans l'industrie. Ça reflète bien ce qui a été dit par mon prédécesseur. Aujourd'hui, il y a encore des pénuries d'emplois dans des secteurs. Alors évidemment, après, on est dans la transition numérique, usine du futur, etc., où là aussi, les jeunes sont les bienvenus, parce que souvent, ils ont cette culture, ils sont natifs, finalement, numérique, et beaucoup d'entreprises ont besoin de ça, et le petit commerce, et le mot petit n'est pas péjoratif, le commerce de proximité aussi. Donc, on est aujourd'hui, si vous voulez, sur une vraie demande de transformation dans un délai extrêmement court, des mesures gouvernementales très puissantes annoncées, mais, délai de mise en place, la plupart de tous les outils du nouveau fonds de solidarité seront disponibles au 1er décembre, puisqu'il faut que la loi de finances ait été votée, et rappelons que dans le plan de relance,
allez-y rapidement,
40% qui viennent de l'Europe. Et l'Europe, ça traîne un peu. Ça va arriver, mais c'est un peu long. On attend la retombée dans les territoires de tout ça. Voilà ce que l'on peut dire.
Merci Pierre Goguet. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je voyais les visages de mes deux autres invités, Isabelle et Philippe, bouger avec une envie de réaction à vos propos. Peut-être Isabelle Saladin par rapport à ce que vient de dire Pierre Goguet.
Alors, par rapport à ce que vient de dire Pierre, effectivement, l'ensemble des programmes de la CCI est très très concentré sur le terrain et très opérationnel. Et ça, je me permets, je ne connais pas personnellement Pierre, mais je veux dire bravo pour toute cette action. Le point qui m'a fait tilter, mais ça n'a rien à voir avec directement avec les actions de la CCI, bien au contraire. C'est, quand on parlait tout à l'heure d'anticipation, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on oblige justement l'ensemble des acteurs de l'accompagnement à être très réactifs par rapport à une situation. Et le B2C, vulgairement, donc c'est-à-dire le business, les boutiques, les commerçants, sont les premiers impactés. Sauf que ce qu'on ne voit pas arriver, c'est que derrière, il y a le B2B. C'est que derrière, il y a l'ensemble des entreprises à entreprises, dont on ne peut pas tous s'occuper, hein, mais on ne s'occupe pas aujourd'hui, qui est en ralentissement réel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc le deuxième problème arrive derrière. Et il y a des solutions qui sont assez basiques, mais qui ne sont pas mises en place. Là, on part d'un plan de relance plus dur. Je dis juste, attention, anticipons.
N'oublions pas le B2B.
N'oublions pas d'anticiper, surtout la vague qui va arriver.
Et vous, Philippe Dialinas, en conclusion, il nous reste juste une minute. Également, un complément de question de ma part aussi, puisqu'on parle beaucoup des compétences numériques manquantes. Est-ce que c'est aussi votre job à la PEC d'essayer de trouver des solutions pour les réduire, cette absence de compétences numériques? Parce que c'est là aussi que passera le rebond.
C'est d'identifier effectivement ces gaps-là et pouvoir conseiller les cadres pour se former, pour ceux qui ne le seraient pas, évidemment, de les conseiller justement vers d'autres secteurs qui sont porteurs d'emplois et quels sont les leviers nécessaires, dont la formation en est un. Donc effectivement, le rôle de l'APEC, c'est de conseiller les cadres pour les amener vers effectivement ces compétences. Et un autre point sur les aides, effectivement, au côté entreprise, pour celles qui recrutent, un des enjeux, c'est de comprendre ces aides, les articuler, les cibler. Moi, employeur, voilà, patron d'une boîte, c'est quelle aide je peux bénéficier, pour qui, pour faire quoi. Ça, c'est aussi un enjeu de l'APEC de conseil pour sécuriser ces recrutements et essayer que les freins soient levés.
Merci infiniment. Merci à tous les trois. Merci Philippe Dialinas. Je rappelle que vous êtes le directeur général joint de l'APEC. Merci Isabelle Saladin. Merci. Vous êtes, quant à vous, effectivement entrepreneur, cofondatrice des Rebondisseurs Français et d'IS Advisor. Et merci Pierre Goguet, président de CCI France. On marque une très courte pause et on se retrouve avec trois nouveaux invités. Et on va également continuer à parler tech et numérique.
BFM Business et la CPME présentent Impact PME. Les experts se mobilisent avec Philippe Bloch.
Trois nouveaux invités pour parler. Ben, on reste dans la technologie, dans le numérique, avec France Num, bien sûr représenté par Aurélien Palix, qui est en charge d'animer la sous-direction des réseaux et usages numériques à la DGE. Bonjour Aurélien. À vos côtés, Geoffrey Anduze. Geoffrey, qui est directeur de la BUERP chez Cegid. Il nous dira ce que c'est que cette BUERP. Et puis un collègue, puisque vous vous connaissez bien, vous avez déjà bossé ensemble dans la même entreprise qui est Cisco, avec Mathias Leray, directeur marketing Europe du Sud de Cisco. Bonjour à vous.
Bonjour Philippe.
Alors on va commencer peut-être avec France Num, que j'ai déjà accueilli dans une émission Impact PME il y a quelques jours, parce que finalement vous êtes vous aussi l'observatoire qui va bien sur cette maturité numérique des entreprises françaises. On évoquait à l'instant notamment le commerce, le commerce de proximité et sa nécessité de se connecter. J'ai trouvé d'ailleurs un document vraiment bien fait, passionnant, qui s'appelle Mon commerce connecté, c'est simple et c'est maintenant, qui est édité par vos services au milieu de plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire un mot de ça d'abord, de ce que fait aujourd'hui France Num et des efforts du gouvernement pour justement numériser, favoriser l'e-commerce, le click and collect notamment, mais il n'y a pas que ça bien sûr quand on parle d'e-commerce.
Bien sûr. Dans le cadre du plan d'urgence, on se rend compte qu'avec la deuxième vague et donc le reconfinement, la nécessité de digitaliser les commerces est vraiment primordial. Et donc on a mis en place un plan d'urgence pour financer et pour aider les commerces à se numériser avec plusieurs actions. Première action, un recensement des plateformes qui font des offres gratuites ou à minima à taux préférentiel actuellement, qui sont référencées sur clickmoncommerce.go.
Voilà, et quand on parle de plateformes, on ne parle pas forcément des gros GAFAM, notamment.
Non, pardon, c'est des offreurs de solutions.
Donc c'est important de le rappeler, parce qu'on pense qu'il n'y a que ça comme solution. On est en train de découvrir qu'il y en a beaucoup d'autres.
Bien sûr, et ça va de la place de marché à le service de paiement en ligne. Donc c'est vraiment tous les offreurs de solutions qui font des offres gratuites en ce moment et qui sont référencées sur le site, donc clickmoncommerce.gouv.fr. En parallèle, on a les CCI et les CMA, vous aviez pédagogué juste avant, qui vont appeler 60 000 entreprises d'ici la fin du mois pour justement leur pousser toutes ces solutions-là. Et ensuite, on va débloquer des moyens, donc on débloque 120
financiers millions
d'euros.
Financiers notamment, il y a 100 millions d'euros. J'ai entendu ce chiffre souvent, il va aider à quoi
Alors, il va y avoir deux volets. Le premier volet, c'est d'accompagner les collectivités locales à mettre en place des solutions au niveau local. Mm-hmm. Donc ça, ce sera la moitié de l'enveloppe, donc 60 millions d'euros.
Ouais.
Et l'autre moitié, ce sera un chèque numérique à destination directe des TPE,
ouais.
du commerce et de la restauration qui veulent se numériser et qui pourront se faire rembourser à partir de janvier sur facture jusqu'à 500 euros.
Alors il y a d'autres questions, pardon, allez-y.
Non, les frais numériques qu'ils auront déployés pendant le confinement.
France Num, c'est aussi un réseau d'activateurs.
C'est ça.
Qui sont-ils? Ils sont 2000, je crois. Qui sont-ils? À la disposition de qui? Pourquoi faire?
Alors ils sont même plus maintenant, puisqu'on a eu une énorme vague avec le confinement qui vient d'arriver. On s'est rendu compte que les TPE, quand elles veulent se numériser, elles ne savent pas forcément vers qui se tourner.
Par quoi commencer?
Voilà. Et donc l'idée, c'était d'identifier tous les gens sur le territoire qui peuvent aider les TPE à se numériser. Et donc on a ce réseau des activateurs. Donc, qui recense maintenant plus de 2000 activateurs.
Qui sont-ils? Quels profils ont-ils?
Et donc, on a toute une panoplie de profils. Il y a du public avec des gens des collectivités locales et des régions, des gens des réseaux consulaires, donc CCI, CMA, mais aussi des acteurs privés, donc des offreurs de solutions, des consultants. Donc, c'est vraiment toute une panoplie.
C'est gratuit?
Et c'est gratuit.
J'y ai accès, moi, en tant que commerçant, en tant que PME.
Je peux trouver, donc sur la plateforme francenum.fr, je peux trouver l'offreur de solutions qui répondra le mieux à mon besoin et qui est près de chez moi et qui me proposera en tout cas un premier rendez-vous gratuit.
Il y a aussi des formations. Est-ce qu'on peut en parler également?
Exactement, c'est ce qu'on va lancer dans le cadre du plan de relance, puisque la numérisation des entreprises a été identifiée comme une des priorités du plan de relance. Et donc, il va y avoir des moyens qui vont être déployés jusqu'à fin 2023 pour accompagner 250 000 entreprises à travers des diagnostics numériques. Donc concrètement, un conseiller des réseaux consulaires, donc CCI ou CMA, vient à la rencontre de l'entreprise pour faire un état des lieux et élaborer un plan d'action avec l'entreprise. Et on aura aussi un autre type de formation qu'on appelle des formations actions, qui en fait visent à former les entreprises à travers la réalisation d'une action. Donc concrètement, on réunit 10-15 commerçants d'une même ville et on les coach pendant 3 semaines, 1 mois pour justement mettre en place un système de click and collect, de vente en ligne. Et donc c'est une formation à travers la réalisation d'une action.
En quelques mots, vous trouvez que cette sensibilisation au numérique, on sait qu'elle s'accélère dans le discours médiatique. Est-ce que vous le voyez sur le terrain? Les gens sont beaucoup plus réceptifs. Ils vont vite, ces fameux petits entrepreneurs au sens noble du terme.
Alors, on a vraiment deux aspects. On a vraiment des entrepreneurs qui sont très réceptifs et qui veulent avancer et qui ont vraiment pris conscience de l'importance de se numériser. On en a d'autres qui sont encore un peu peut-être sur la défensive, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire numérisation, parce que ça couvre énormément de réalités différentes.
Bien sûr.
Et donc c'est pour ça que l'accompagnement est vraiment important, c'est pour ça qu'on a décidé dans le cadre du plan de relance de mettre les moyens là-dessus.
Une porte d'entrée, le site de France Num.
Exactement.
Super. Geoffrey Anduze, j'évoquais Cegid. Alors voilà un acteur qui typiquement sait bien à quel point il faut que tout soit sur une même chaîne digitalisée. Ça suppose beaucoup, beaucoup finalement de passages et de modifications. Cegid, je le rappelle, c'est quand même un groupe français que tout le monde connaît, mais 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 collaborateurs, numéro 3 du cloud en France, 35 années d'expertise. Mmh. Vous connaissez bien la maturité numérique des entreprises françaises. Où en est-on selon vous? Est-ce que ce qu'on évoque à l'instant, tout le boulot qui reste à faire, vous le ressentez chez vos clients aujourd'hui ou pas?
On le ressent parfaitement. Effectivement, et dernièrement avec IDC, nous avons mené une enquête juste avant le confinement.
Oui, absolument.
Et il en ressort que à peu près 50% des entreprises aujourd'hui ont démarré une activité à travers le digital. On a plus de 35% des entreprises qui n'ont pas démarré la réflexion. Et je pense que l'enjeu qu'on évoquait, il est vraiment là. C'est que le digital, on en parle depuis des années finalement. Mais est-ce que c'est réellement un moteur ? Le moteur, c'est ou la concurrence, ou aujourd'hui le besoin de survivre.
La survie aujourd'hui.
Exactement. Exactement.
Il n'y a rien de tel que la survie hein, comme moteur.
Oui.
Ça, pour l'accélération, à mon avis,
oui,
c'est quand même...
Elle accroît aussi les aspects concurrentiels. Il y a une pression concurrentielle, ouais. Il y a une pression de maîtrise des coûts, il y a une pression sur la productivité. Et à travers ces axes-là, finalement, le digital, c'est le carburant. Et on l'utilise, et quand on l'utilise, on voit beaucoup en ce moment le sujet autour du click and collect.
Voilà, mais c'est pas si simple.
C'est pas si simple.
Parce que c'est pas juste, on dit click and collect et le monde change.
Voilà. Et quand on l'utilise, on a des leviers, donc on peut retrouver un petit peu d'accélération. Quand on n'utilise pas le digital, et bah, on souffre peut-être plus que les autres. Donc, il y a un enjeu de maturité, il y a un enjeu de stratégie et il y a un enjeu de compétence. C'était votre sujet juste avant. Il y a un enjeu aussi de compétence. Donc, se lancer aujourd'hui dans le digital quand on est une PME, c'est pas si simple.
Alors, qu'est-ce que vous offrez justement ? Parce que on prenait l'exemple du click and collect quand on sépare nos téléphones pour préparer cette émission. On me disait qu'il y a toute une chaîne qu'il faut. Il faut que la facturation soit reliée à d'autres éléments. C'est ça votre job, vous, chez Cegid notamment ?
Notre job aujourd'hui, c'est c'est d'accompagner les entreprises à connecter l'ensemble des ressources à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de ressources, on parle des processus, des organisations et des données. Parce que l'ensemble de la capacité de l'entreprise va être créée autour de la donnée pour piloter. Longtemps, on a accompagné nos entreprises à piloter financièrement l'entreprise. Aujourd'hui, on le sent très bien à travers cette crise. L'enjeu de l'entreprise et du patron de la PME, c'est de piloter l'activité au sens large. En temps réel, la gestion des stocks, la gestion des achats, sa capacité à pouvoir se réinventer, finalement, à réadapter à des nouveaux marchés. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui, à travers le click and collect, c'est pas simplement un outil, c'est sa capacité à adresser différents types de marchés.
Oui, c'est un repositionnement, c'est un fameux pivot. C'est comme quand les startups pivotent, c'est une autre façon de vendre, de s'organiser, de concevoir l'entreprise et son offre.
Exactement. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de finalement d'accompagner, en fonction de la maturité digitale de l'entreprise, dans un premier temps, optimiser les process, optimiser la production, mais aussi transformer les modèles, apporter des nouveaux moyens avec un écosystème, avec une ouverture qui va permettre de connecter et simplifier l'usage. Parce que finalement, ce qu'attend la PME, c'est des usages. C'est la capacité à créer des nouveaux services. Ce n'est pas une solution technologique.
Ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont surtout des TPE et des PME. La question que j'ai envie de vous poser à leur place, c'est est-ce que moi, qui suis une petite boîte de 5-10 personnes, tout ça est accessible pour moi ? Je pense à l'intelligence artificielle, je prends à la signature électronique. Est-ce que tous ces trucs qui me font envie, mais je ne sais pas par quel bout les prendre, c'est à ma disposition aujourd'hui ou on ne parle que de très grosses boîtes là-dessus ?
Effectivement, il y a beaucoup de ruptures technologiques. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, la robotisation.
La data, moi, je ne sais pas si j'en ai, je pense que j'en ai peut-être, mais comment je l'utilise ?
Notre métier et comment se Cegid de se différencier aujourd'hui, c'est notre capacité à apporter des nouvelles fois des solutions qui vont être tournées sur l'usage, sur la simplicité, sur l'ergonomie. Mm-hmm. On ne va pas demander à une PME de faire de l'intégration complexe.
Elle n'a pas les moyens.
Elle n'a pas les hommes. Donc par contre, on va travailler avec eux sur l'expertise de leurs données. Et pour ça, c'est une nouvelle fois, c'est cette capacité à connecter l'ensemble des données et de l'ouvrir à un environnement écosystème. Travailler différemment avec ses partenaires, travailler différemment avec ses sous-traitants, travailler sa gestion de stock différemment. Et c'est ça qu'on va apporter. Et finalement, la force d'une entreprise aujourd'hui, qu'elle soit PME ou non, c'est pas sa taille, c'est sa capacité à réagir, à créer et à innover.
Donc pas de taille minimale pour avoir accès à l'ensemble de la panoplie des outils numériques à votre
avis. Pourquoi ? Et une des réponses, c'est le cloud. C'est qu'aujourd'hui, Cegid était un des premiers acteurs à aller dans le cloud il y a quelques années.
On rappelle ce que c'est pour ceux qui nous écoutent et qui entendent cloud mais qui ne savent pas forcément ce que c'est. Et là, on va avoir également des produits cloud tout de suite.
Donc, ce sont les solutions qui sont disponibles en mode SaaS, c'est-à-dire à l'usage.
Voilà, c'est pas chez moi. Tout n'est pas forcément dans mes bureaux et dans mon ordinateur, mais quelque part dans un nuage et j'y ai accès.
Et donc, on apporte des services et une nouvelle fois des usages qui permettent de se connecter à différents types d'activités. Je vous donne un exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la signature électronique. C'était un grand boom pendant le confinement. Mais si la signature électronique est isolée, c'est-à-dire c'est un processus supplémentaire à l'entreprise, ça va simplifier la manière où on va interagir, mais ça va complexifier dans le process global de l'entreprise.
Bien sûr.
Il faut intégrer la signature électronique, la dématérialisation des factures. Je vous rappelle qu'avec le gouvernement, pour les PME, c'est quasiment 2 milliards de factures à dématérialiser avant 2025. Donc, intégrer au fur et à mesure l'ensemble de ces processus et avoir une plateforme de gestion de l'entreprise, pas uniquement financière, une plateforme qui va ouvrir à ces sujets-là. Le dernier exemple qui fonctionne très bien aujourd'hui, on a des partenaires éditeurs sur lesquels on va se connecter, qui va permettre, par exemple, de se connecter à l'ensemble des marketplaces. Aujourd'hui, je suis une PME, aller vers une marketplace et commercialiser différemment, c'est pas si simple. Donc avoir des outils qui vont simplifier cette connexion, c'est aussi de la rapidité et donc du développement du chiffre d'affaires.
qui plus est, une multitude d'entre eux. Mathieu Lauré, vous êtes quant à vous directeur marketing Europe du Sud de Cisco. Alors Cisco, je le rappelle chaque fois parce que ça m'impressionne, c'est 80% quand même de l'Internet qui passe par...
80% du trafic Internet.
Par vos réseaux,
par nos infrastructures.
C'est complètement dingue. Et vous êtes vous aussi un opérateur dont on peut penser comme ça qu'il ne travaille qu'avec des gens. Pas du tout. Vous travaillez à peu près sur tous les types d'entreprises. Et votre job, en fait, c'est de fluidifier finalement la communication notamment, et notamment, peut-être en parlant ensemble avec tout ce qui se passe en matière de télétravail et de nouvelles façons de travailler dans les entreprises. Mais rappelez-nous en gros quelles sont les nombreuses activités de Cisco et celles que vous représentez aujourd'hui.
Comme vous l'avez dit, à peu près 80% du trafic Internet passe à travers notre plateforme, nos plateformes.
Oui.
Et donc on s'est largement développé grâce à l'Internet, mais on n'opère pas évidemment que sur ce segment. On est aussi extrêmement présent sur la cybersécurité, qui est évidemment un élément et un enjeu majeur, étant donné la numérisation de l'économie.
Et le confinement.
Et le confinement, tenez-vous bien.
Oui, vous allez voir un chiffre qui va...
Une augmentation de 887% des attaques. Et les PME sont pas épargnées, puisqu'à peu près une PME sur deux est attaquée, puisque assez souvent peu équipée pour faire face à ce type d'attaque.
Et là, Mathias, effectivement, ce qui compte notamment, m'avez-vous souvent rappelé, c'est la formation des gens, la sensibilisation à ce thème. En fait, les gens font tout pour qu'ils soient, dans bien des cas, ils ne sont pas assez prudents. Nos amis, en termes de cybersécurité.
Évidemment, il ne faut évidemment pas garder ses mots de passe dans un fichier Excel sur son PC.
Non, sans avoir... pendant des années, je l'avais, mais j'ai mis des années à mettre un code d'accès pour que tout le monde n'ait pas accès à mon fichier Excel. Même ça, je ne l'avais pas fait.
80% des attaques sont liées à des mauvais mots de passe ou des mots de passe qui sont évidemment trop simples. Donc évidemment, il ne faut pas aller dans la facilité. Mais il y a des solutions qui existent
lesquelles
aujourd'hui.
Quelles sont-elles, justement ?
Il y a des solutions...
La cybersécurité
à travers le cloud. Alors chez Cisco en particulier, on a mis une approche dite de zéro trust, aucune confiance en bon français.
Ce qui est assez français en général. Les Français n'ont jamais confiance en personne, donc ce sera facilement appliqué par la France, le zéro trust. Ça consiste en quoi ?
Mais en fait, là, l'objet est vraiment très simple, c'est de vérifier que la personne qui se connecte au réseau est la bonne. C'est exactement le même principe maintenant que les systèmes de paiement. Quand vous payez en ligne, vous recevez un SMS, vous validez, ensuite vous accédez et vous payez. Eh bien, on peut utiliser exactement le même principe. Avant d'accéder à une application, vous allez recevoir un code que vous allez valider et ensuite vous accédez à votre application. L'autre élément du Zero Trust aussi, c'est de s'assurer que votre device, votre PC par exemple, est autorisé à se connecter au réseau. Et donc, on le reconnaît et on autorise l'accès.
Oui, parce que pardonnez-moi, mais avec le confinement, beaucoup ont utilisé leur propre device. Quand tout s'est passé dans la précipitation, j'imagine que beaucoup de salariés des groupes ont travaillé avec leur propre device. Donc, il y a eu ces problématiques. Sans doute, ce qui explique les 887% d'explosion du hacking.
Évidemment, et donc c'est une faiblesse. Oui. D'autant plus que parfois, certains de ces PC ne sont pas protégés correctement. L'autre aspect qui est aussi essentiel, c'est de segmenter les utilisateurs qui se connectent au réseau. Quand vous êtes un commercial, par exemple, peut-être qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez accès
à toutes les infos de la
boîte, données financières. Et donc, segmenter le réseau et les utilisateurs de façon convenable est aussi une façon de lutter contre ce type de fraude. Et puis, bien sûr, regarder s'il n'y a pas des intrusions sur le réseau.
On dit un mot simplement sur ce que vous appelez les solutions de communication unifiées, parce que c'est aussi
fournit une solution bien connue,
Webex.
Webex, qui est
une
plateforme de vidéoconférence qui permet de se connecter à distance. Et c'est là, pour rebondir avec ce que disait Geoffrey, où on a fait beaucoup de progrès quant à la facilité d'installation de ces services, puisqu'on a installé Webex chez nombreux clients en quelques jours. Et en fait, on envoyait un lien, on télécharge l'application et instantanément, on accède au service. Donc maintenant, toutes ces solutions sont accessibles du cloud et sont vraiment faciles à installer.
Vous avez été étonné par la réactivité des TPE-PME pendant toute cette période d'adaptation, puisqu'on parle depuis quand même 40 minutes déjà d'adaptation des entrepreneurs français.
J'ai été personnellement très impressionné par la capacité de réaction des entrepreneuses et des entrepreneurs. Ils ont dû réagir en quelques jours, assurer une continuité de service. Maintenant, comme on le mentionnait au préalable, il y a toujours un manque de maturité numérique en France.
Alors justement, comparé à d'autres, les chiffres sont un peu variables. Parfois, j'entends qu'on est 10e classé 10e en termes de maturité numérique, parfois 16e. Quelles sont la réalité ? Alors on a des experts ici.
On a fait une étude en juin 2020 et on est à peu près 8e, 9e.
bien en deçà de ce que peuvent faire des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. Mais au-delà de ça, ce qu'on a regardé aussi, c'est l'impact que pouvait avoir la numérisation sur le chiffre d'affaires des PME.
Oui, j'allais presque poser la question tout à l'heure, peut-être Geoffrey, on va répondre à ça, allez-y.
Et on a regardé ça de façon précise. Pour les entreprises qui ont vraiment mis en place une roadmap digitale digne de ce nom, alors la croissance du chiffre d'affaires est proche de 2,5-3%. Pour celles qui sont plus sceptiques, pour celles qui n'ont pas encore engagé cette transformation, alors là, le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires est de l'ordre de 0,5 à 1%. Donc on voit bien qu'en fait, le numérique, c'est aujourd'hui un acteur de la transformation et c'est un élément qui permet de générer du chiffre d'affaires additionnel.
Et contrairement à ce que pensent beaucoup, ce n'est pas une menace. C'est le moyen, au contraire, d'aller plus vite, plus loin et de survivre.
C'est un carburant, c'est une opportunité.
Vous utilisez le mot carburant tout à l'heure.
Parce que ça amène des moyens supplémentaires. Ça amène cette capacité à optimiser, ça amène cette capacité... Finalement, quand on écoute nos clients, on voit bien que ça leur permet d'adresser différents marchés, de créer de nouvelles offres. Et, excusez-moi, mais en ce moment, c'est aussi de répondre à ce besoin de continuité de service. Le pilotage en temps réel de l'entreprise de bout en bout, avec l'ensemble des données, c'est clé. Donc, effectivement, c'est un effet levier pour le futur, mais c'est aussi un besoin, quand vous dites de se réadapter, il se réadapte en essayant de créer des nouvelles approches. Et pour ça, les outils et le digital est clé pour eux.
On dit juste un mot de la 5G, parce que ça peut aussi changer beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut s'y préparer dès maintenant, ou est-ce que c'est trop tôt? Si je nous écoute dans cette émission aujourd'hui, est-ce que bon, c'est un chantier que je verrai plus tard, ou est-ce que d'ores et déjà je dois prendre des options par rapport à la 5G? Je pense peut-être au réseau avec vous, Mathias, dans un premier temps, puisque...
Dans un premier temps, je pense que les PME doivent se concentrer aussi sur la numérisation de leur entreprise.
Avec l'existant.
Et il faut qu'ils se projettent dans un nouvel environnement qui est, pour certains, un peu nouveau. Et donc, ils réinventent la façon d'opérer dans ce monde digital qui est un petit peu plus complexe pour la plupart d'entre nous. Je pourrais prendre un exemple précis.
Rapidement.
Vous êtes un artisan, vous aviez l'habitude de contacter vos clients à travers des flyers, à travers le bouche à oreille. La question pour ces artisans, c'est comment utiliser le digital, les réseaux sociaux par exemple, pour créer le flyer numérique, ou comment créer des témoignages clients sur son propre site web.
Bien sûr.
Voilà, donc il faut revenir déjà dans un premier temps au basique. La 5G, évidemment, est un sujet qui va venir extrêmement rapidement, mais...
On l'oublie pas, mais... Priorité d'abord, survivre par les outils numériques existants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Aurélien Palix. Je rappelle que vous êtes en charge d'animer la sous-direction des réseaux et usages numériques au sein de la DGE. Mathias Leray, vous êtes directeur marketing Europe du Sud de Cisco, et Geoffrey Anduze, directeur de la BU ERP chez Cegid. Merci à tous.
Merci.
On marque une deuxième pause et on se retrouve tout de suite avec quatre nouveaux invités.
BFM Business et la CPME présentent Impact PME. Les experts se mobilisent avec Philippe Bloch.
Dernière partie de notre émission, quatre nouveaux invités, avec l'un qui n'est pas en plateau, c'est Charles-René Tandé, qui est quelque part dans un bureau ou chez lui. Bonjour Charles-René.
Bonjour, oui, je suis à Strasbourg, à mon cabinet.
À Strasbourg, au cabinet. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables, du Conseil de l'Ordre des experts comptables, supérieur de l'Ordre des experts comptables, et que vous êtes avec nous via Skype. À mes côtés également, Philippe Crevel. Philippe, qui est directeur du Cercle de l'Épargne, qui est associé d'ailleurs à la AG2R La Mondiale. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On a également, c'est souvent un tandem quand on entend Charles-René. Il y a parfois aussi un commissaire aux comptes, un ami dans les parages, et j'ai la chance d'avoir Yannick Olivier, qui est le président de la Chambre nationale des commissaires aux comptes. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et j'ai également Anthony Strecher, qui est quant à lui président de GSC. GSC, c'est l'organisme dont on ne sait pas toujours, et j'aime vraiment le rappeler, peut permettre aux entrepreneurs qui se sont plantés, finalement, d'être quand même un petit peu pris en charge, parce qu'il n'y a pas de chômage pour eux, mais il y a des solutions. On va commencer avec vous, Philippe Crevel, parce que vous êtes économiste et que j'aimerais avoir un peu votre regard, puisque le cercle de l'épargne que vous dirigez, c'est un cercle d'études et d'informations à la fois sur l'économie, mais aussi sur la retraite et l'épargne. Quelle est votre observation du moment? Enfin, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on est dans un truc qui n'en finira jamais? Quel est l'état d'esprit que vous ressentez aujourd'hui chez les uns les autres? Est-ce qu'il faut être vraiment inquiet?
Il faut évidemment espérer que ça se termine un jour. Et toute crise se termine un jour. Toute épidémie se termine. Ouais. Que ce soit celle de 1832 ou que ce soit celle de 1918. Et heureusement que l'on trouve un vaccin ou qu'on trouve un remède. Ou même que le temps fasse son œuvre. Aujourd'hui, au niveau des entreprises et au niveau des PME, je dirais que face à un choc qui est historique, centennal,
Jamais vu.
Jamais vu dans notre existence, notre vie. Les entreprises résistent plutôt pas trop mal.
Pour le moment.
Pour le moment, mais il y a une résilience qui s'est manifestée d'ailleurs au troisième trimestre, où la croissance française a été la plus forte d'Europe. La production des entreprises en France avait quasiment retrouvé son niveau d'avant-crise au mois de septembre. Évidemment, il y a un deuxième confinement, donc là, on s'en reprend une deuxième vague. Mais il y a eu une capacité de rebond extrêmement importante. C'est lié, évidemment, aux politiques publiques qui ont été mises en œuvre, à la fois le PGE, le soutien via le chômage partiel, et puis également au savoir, au travail des uns et des autres qui ont permis ce rebond et qui permet de maintenir quand même aujourd'hui ce tissu économique. Alors évidemment, la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la deuxième vague. Tout le monde annonce une augmentation extrêmement forte des liquidations, une augmentation du chômage. Moi je ne veux pas voir le pire. Il faut évidemment...
Mais il est possible.
C'est un choc important. Ça déstructure, c'est vrai, les chaînes de production. La demande est entravée à la fois par la peur, par les contraintes sanitaires, et d'autre part, on recule l'investissement. Et ça, c'est un point, évidemment, de vigilance. C'est que les investissements qui ne sont pas faits aujourd'hui, on va les payer, on va dire très fortement, demain et après-demain, parce que la compétitivité d'entreprise sera en cause. Mais moi, je préfère voir le côté positif. Pour le moment, ça tient. Grâce au travail des uns et des autres, ce qu'il faut, c'est donner, évidemment, créer l'environnement de rebond une fois qu'on aura résolu une grande partie ou la totalité de cette épidémie.
Il y a une question qui se pose de plus en plus et qu'on commence à entendre. Faudra-t-il sauver tout le monde ? Ou faut-il profiter de cette espèce de tsunami pour finalement gagner 10 ans sur la restructuration de l'économie, les formats, les modèles, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision à prendre de toute façon là-dessus, mais comment voyez-vous les choses là-dessus ?
Alors c'est vrai que si on croit à Schumpeter, il faut qu'il y ait de la destruction créatrice et que cette crise sanitaire fait une accélération
de toutes les tendances existantes.
Oui, évidemment, la digitalisation est en particulier. Après, c'est vrai que le pari qui a été pris par le gouvernement, c'est de dire on essaie de maintenir le plus grand nombre d'entreprises avec les PGE. Et la question, ce sera évidemment leur remboursement, à savoir comment les entreprises qui sont en extrême difficulté, qui n'avaient déjà pas une forte rentabilité, pourront rembourser. C'est vrai que c'est un risque parce qu'on va aider pas forcément les entreprises de l'avenir, celles qui seront les créatrices de l'emploi en voulant tout aider aujourd'hui. Ça, c'est un point qui est en termes économiques. Évidemment, je ne parle pas en termes humains, je parle pas au niveau social. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. On estime que dans le tissu économique français, il y a entre 12 et 15% des entreprises qui n'étaient pas viables avant la crise et qui auraient dû disparaître quoi qu'il arrive. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va maintenir un peu, mais que la question va se poser. Et que c'est vrai que ça peut être un réveil difficile le jour où on va supprimer l'oxygène, ça veut dire les prêts, les aides, et là, ça pourra tomber. Comme à Verdun, pour reprendre une image pour hier le 11 novembre.
Un dernier conseil, je vais me tourner vers René-Charles Tandé. Vous m'avez dit au téléphone que dans la crise de 2008 en Allemagne, ils s'en sont mieux sortis que nous parce qu'ils ont profité de cette période pour former. Et un de vos conseils, c'est-à-dire profitons de cette période pour former. Est-ce que vous affirmez ça haut et fort ?
C'est un point essentiel. On parle souvent de la réussite allemande via le chômage partiel et on a imité l'Allemagne. Mais il y avait un deuxième point dans la réussite allemande de 2008, c'était la formation. Un exemple tout simple. Une entreprise qui s'appelle Trumpf, qui est très connue et qui fait de la découpe laser au service de l'industrie automobile, à Stuttgart, pour Mercedes et Porsche en particulier. Du jour au lendemain, plus de ventes de ces machines-outils, parce que le marché donc chinois s'est interrompu, que les entreprises allemandes n'en achetaient plus. Elle a décidé de mettre une grande partie de son personnel en formation pour faire du plateau technique pour les hôpitaux. On voit aujourd'hui, évidemment, que c'était une belle opportunité et que cette entreprise Trumpf, aujourd'hui, a des carnets de commandes pleins grâce, justement, à cette reconversion. Et donc, vraiment, il faut insister sur la formation et que c'est un investissement majeur. Aujourd'hui, on sait que les salariés français ont un déficit de formation par rapport à leurs homologues allemands et que là-dessus, cette bataille doit être menée.
Merci beaucoup, Charles-René Tandé. Vous nous entendez bien ? Je reviens vers vous parce qu'on s'est vu, nous, il y a quelques semaines, dans le cadre de votre 75e congrès. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont les TPE-PME approchent aujourd'hui leurs experts comptables en ce 15 premiers jours de confinement ? Quel est l'état d'esprit ? Quelles sont les demandes qui sont faites aujourd'hui à votre profession ? Quel type de problématiques vous sont posées, qui sont, j'imagine, pas les mêmes que celles du premier confinement il y a quelques mois ?
Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on était fin septembre, on posait déjà la
La question, c'est quelle visibilité, parce qu'on sait bien que pour investir, il faut de la visibilité, et on était un peu en incertitude. Je dirais qu'hélas, aujourd'hui, on est moins en incertitude, puisqu'on est dans un deuxième confinement, et que, évidemment, c'est problématique. Je rejoins tout ce qu'a dit Philippe Crevel à l'instant. C'est qu'à partir du moment où on étale, à un moment, il faudra rembourser, et ça handicape l'investissement futur. Et on sait très bien que les entreprises qui n'investissent pas, à terme, sont en grande difficulté. Donc aujourd'hui, on est presque habitué, puisque c'est vrai que les dispositifs sont les mêmes, de même nature qu'au premier confinement, hein, donc le fonds de solidarité, les PGE qui sont renouvelés ou nouveaux PGE, des étalements s'il le faut en charge sociale. Donc on est sur des dispositifs connus, maîtrisés, mais ça ne fait que s'accentuer. Alors par contre, je dirais qu'il faut faire attention en fonction des secteurs, parce que là on globalise. Mais après, c'est vraiment par secteur d'activité que vous avez des difficultés très sérieuses avec des forts risques de dépôt de bilan à terme. Évidemment, si on parle de la restauration ou les commerces. Et puis, il y en a d'autres aujourd'hui qui tournent. À la différence du premier confinement, on a quand même un certain nombre d'entreprises dans les secteurs d'activité qui tournent. Et ça, c'est plutôt rassurant quand même pour l'économie globalement.
Et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme... Est-ce qu'il y a des priorités aujourd'hui à indiquer à ces entrepreneurs? Le chômage partiel, la décision doit déjà être prise pour eux. Par rapport au financement, quelles sont les problématiques nouvelles qui émergent de cette période qu'on n'a même pas vu il y a quelques semaines ou il y a quelques jours? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous ressentez?
Ce qui est important, alors c'était le premier confinement qui avait montré que par moment on peut se sentir seul et il faut absolument avoir une certaine indépendance par rapport aux approvisionnements, par rapport à toute une série, évidemment, du process de production. Et donc, ça, c'est important que l'entreprise puisse avoir plusieurs solutions, parce que lorsqu'on n'en a qu'une, eh bien, on est dépendant. Donc ça a déjà... Le premier enseignement a été tiré, donc je pense que ça va mieux aujourd'hui. Deuxième élément, bien évidemment, et c'était le débat que vous aviez précédemment, tout ce qui concerne le numérique qui permet d'avoir des solutions de substitution. Un click and collect, bon, ben, ça se développe. On travaille avec nos clients aussi sur le schéma économique de ce système. Évidemment, les équations de gestion ne sont pas les mêmes, mais ça permet aussi de passer, et ça s'est fortement développé. Donc c'est vrai que finalement, on réagit mieux sur ce deuxième confinement. Reste quelques entreprises qui ne sont pas équipées, qui n'ont pas les possibilités et qui sont en très grande difficulté.
J'entends souvent dire de plus en plus d'ailleurs que les experts comptables peuvent jouer un rôle primordial dans la numérisation des entreprises françaises. Est-ce que si je suis une PME qui nous écoute aujourd'hui, j'ai intérêt à aller voir mon expert comptable là-dessus, il peut m'aider ou pas?
Oui, absolument. Nous-mêmes, nous sommes passés quand même à l'ère numérique. On parlait tout à l'heure de signature électronique, on a notre signature électronique, de facture électronique qu'il va falloir mettre en place. Tout ça, les experts comptables peuvent aider, bien évidemment, les clients. Bien sûr qu'on est là, nous, au service des petites et moyennes entreprises, et cette approche, on va dire générale, globale du système d'information de l'entreprise, expert comptable peut bien évidemment apporter sa contribution.
Merci Charles. En attendant, je vais me tourner vers quelqu'un que vous connaissez très bien, Yannick Olivier, qui représente l'autre profession que souvent, d'ailleurs, vous incarnez l'une et l'autre, parce que vous avez souvent les deux métiers qui sont les commissaires aux comptes. Vous avez un job différent. J'aimerais peut-être qu'on rappelle à nos amis qui nous écoutent la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes. Le commissariat aux comptes n'est plus une obligation en deçà d'un certain seuil d'activité. Il le reste pour un seuil un peu plus élevé. Mais c'est surtout un devoir de vigilance et d'alerte qu'a ce métier de l'expert. Est-ce qu'on peut rappeler un peu la différence de vos deux métiers, Yannick Olivier?
Oui. Alors, donc bonjour Philippe, mais effectivement, on est bien sur deux rôles totalement différents, mais totalement complémentaires.
C'est ça.
L'expert comptable, il est vraiment dans le conseil, il est vraiment dans l'accompagnement au quotidien de l'entreprise. Et donc, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, quand il faut mettre en place les aides, quand il faut répondre à des besoins...
Le chômage partiel,
etc.
Les prêts PGE.
Nous, on a un rôle complètement différent, mais extrêmement complémentaire. C'est celui, effectivement, d'avoir ce regard totalement indépendant et extérieur qui nous permet d'avoir un échange avec les dirigeants, soit parce que nous sommes leurs commissaires aux comptes et qu'on leur certifie leurs comptes, et qu'au travers de cette mission, on a une analyse de risque partagée. Parce que le commissaire aux comptes, c'est surtout quelqu'un qui analyse les risques, qui les évalue. Et donc, ça intéresse bien sûr au premier chef, le dirigeant, parce que, notamment aujourd'hui, on voit bien que les enjeux bougent aussi. Et puis, le deuxième élément de notre mission, c'est qu'on a, en dehors des missions de certification, maintenant, on a des missions d'accompagnement, qui ne sont pas des missions de conseil, mais qui sont des missions justement qui participent à la transparence et la sécurité financière.
Qui sont nées de la loi Pacte, notamment.
Qui
ont réduit le nombre de vos mandats, mais qui a élargi les possibilités.
Elle n'a pas réduit le nombre de mandats, non. Elle a juste dit que c'était plus obligatoire, on n'imposait pas aux entreprises au-delà d'un certain seuil, mais ça ne veut pas dire que beaucoup d'entre elles ne continuent pas à certifier leurs comptes.
On a eu dans cette émission des gens qui ont continué leur mandat et qui sont ravis parce qu'elles ont ce deuxième regard que parfois apportent d'ailleurs des investisseurs ou des fonds d'investissement dans les entreprises.
Exactement, donc en fait c'est important sur la sémantique parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette rapidité de dire bah finalement puisqu'on relève les seuils, non, c'était le fait de dire aux entreprises il faut qu'elles fassent un acte au-dessus d'un certain seuil, bon forcément l'importance des enjeux fait que c'est obligatoire, mais en dessous c'est utile, mais il faut que l'utilité soit totale et que donc les entrepreneurs achètent. Et ils achètent en fait. Et ils achètent parce que justement ils ont besoin de ce regard extérieur. Et là on parle du contexte du Covid. Forcément à un moment donné de nouveaux enjeux, de nouveaux risques apparaissent et ils vont avoir besoin de cet échange avec vous qui êtes extérieur, vous mon commissaire aux comptes. Quel regard vous portez sur mon activité, sur les nouveaux enjeux? On a parlé tout à l'heure, vous parliez du digital et du numérique. Ils ont dû changer en très peu de temps le paradigme de fonctionnement de leur entreprise, développer le numérique, développer d'autres modes de commercialisation, parler du kick-off collecte ou même des sites internet de vente en ligne, etc. Et donc, en changeant complètement leur modèle économique, ils changent complètement aussi d'analyse de risque. Et donc, arrivent des enjeux de cyber, des enjeux, effectivement, de développement économique dans un autre cadre. Et donc là, ils vont attendre notre regard. Et nous, notre rôle, c'est de dire, attention, effectivement, nous, on connaît les risques et on sait les process qu'il faut mettre en place. Et nous avons des entreprises qui nous disent, mais attendez, finalement, rassurez-moi, est-ce que les process que j'ai mis en place, souvent dans l'urgence, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il faut que je les améliore? Et donc, nous, on a le droit d'avoir ce regard tout en restant indépendant sur les process de contrôle interne et leur dire, non, là, il y a à travailler sur tel thème, et donc on les renvoie d'ailleurs souvent vers leur expert comptable pour les accompagner dans les améliorations.
Vous êtes en train de me dire, Yannick Olivier, que contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est-à-dire qu'on croit qu'on voit son commissaire en compte une fois par an quand on publie ses comptes, en fait on a des interactions très, très, beaucoup plus fréquentes que cela quand, sur cette alerte que vous évoquiez ou sur...
Alors, on peut parler un peu de l'alerte et de la prévention, mais je reviens sur votre remarque sur la mission permanente. La mission du commissaire en compte, elle est permanente, c'est pas une fois par an pour la certification des comptes.
Oui. On a tendance un peu à penser ça quand on ne connaît pas bien
exactement,
votre métier.
Le métier, parce qu'en fait on communiquait peu et maintenant justement on communique beaucoup plus sur notre rôle et on intervient à plein de moments différents dans l'année et avec justement des enjeux soit d'anticipation, soit d'analyse de risque, soit de revue de process interne, etc. Et puis on a aussi cet enjeu, vous l'avez évoqué un peu rapidement là à l'instant, celui de la prévention. La prévention c'est quoi? C'est de dire qu'on a ce regard avec le dirigeant et à un moment donné, quand nous on détecte des signaux faibles qui nous laissent à penser que l'entreprise pourrait se retrouver dans une situation délicate ou qu'elle a des difficultés qui peuvent se présenter, d'imposer ou d'obliger, mais quelque part, je dirais d'inciter à avoir un échange avec lui sur, bon, posons les chiffres, où on en est, comment vous analysez votre situation, et de l'amener à aller peut-être aussi se poser les bonnes questions, aller chercher les bons conseils, là encore une fois souvent auprès d'experts comptables, et puis derrière, peut-être prendre les dispositions qui s'imposent, un plan de trésorerie, les réflexions autour de l'investissement, les réflexions autour justement du prospectif, et nous on va les inciter à mener ces débats-là, et puis parfois, malheureusement, on va peut-être être obligé de leur dire, attendez, la situation là est tellement grave qu'il faut absolument que vous alliez vous orienter soit vers des dispositifs non judiciaires type CIP et autres, pour qu'ils puissent avoir des aides un peu plus fortes que les aides qui ont été mises en place par l'État d'accompagnement dans une entreprise qui commence à avoir des difficultés, voire même vers les tribunaux de commerce s'il le faut, pour qu'ils puissent vraiment anticiper l'enjeu. Là, on parlait tout à l'heure de la vague des défaillances. L'enjeu de la prévention, c'est l'anticipation. Plus une entreprise identifie ses problématiques en amont et met en place un plan d'action en amont, plus il a des chances de survivre dans de bonnes conditions. Et notre rôle à nous, justement, c'est justement de les alerter le plus tôt possible pour qu'ils puissent réagir en temps voulu.
Merci Yannick Olivier, je me tourne vers Anthony Streicher. Anthony, vous êtes le président de GSC, qui a été créé il y a déjà 40 ans.
Eh oui, 40 ans déjà, Philippe.
Alors là aussi, idée reçue aussi, quand on pense qu'il n'y a pas de possibilité pour l'entrepreneur de se protéger d'une éventuelle faillite ou d'être au chômage, parce que ça peut malheureusement arriver, on évoquait le rebond en début d'émission. Eh bien si, il y a des solutions, on ne les connaît pas toujours, et c'est vous en partie.
Alors, il y a des solutions, et je vais essayer, on va profiter, parce que là j'ai une aura avec plein de conseils qui sont autour des hommes et femmes chefs d'entreprise. L'association GSC, depuis 40 ans, elle s'occupe des gueules cassées de l'économie. Vous savez, aujourd'hui, les hommes et femmes qui trébuchent, qui ferment le rideau. L'association, elle s'occupe de ces hommes et ces femmes-là. Et aujourd'hui,
Depuis 40 ans.
Et aujourd'hui, où on tire la sonnette d'alarme, c'est quoi qu'on en dise, les chiffres économiques et la situation dans laquelle on est, on s'attend de toute façon entre 100 à 150 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise en 2021-2022 qui vont fermer le rideau. Aujourd'hui, je donne des chiffres, 22 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise ont déjà fermé le rideau au 30 septembre. Sur ces hommes et femmes.
22 000, pardon, mais par rapport à en plus.
En 2019, que... là, en 2020,
mais
excusez-moi.
C'est plus que d'habitude ou c'est.
Beaucoup moins grâce à toutes les aides économiques.
Oui.
Et un chiffre, sur ces 22 000, vous en avez moins de 2 300 qui ont eu un dossier ATI pour avoir un minimum d'allocation. Donc on a un défaut d'information. On s'occupe de l'entreprise, on s'occupe du CIRET, on essaie de tout faire pour le développement de l'entreprise, sa survie. Une fois que l'entreprise tombe, moi je parle de l'homme et la femme.
On le laisse tomber, la gueule cassée,
La gueule cassée. Et aujourd'hui, l'association, donc je prends un mot aujourd'hui, seule, l'association ne peut rien. L'ensemble de l'État, l'ensemble de nos confédérations, l'ordre des experts comptables, les CAC, aujourd'hui sur l'ensemble de nos entités, on a un devoir de conseil et d'accompagnement. Dès maintenant, vous parlez d'anticipation, de prévention, c'est dès maintenant qu'il faut qu'on en parle avec les chefs d'entreprise. Il faut qu'on parle d'eux. Que font-ils pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils sont là du matin au soir pour développer la France, et à un moment donné, les 10% d'actifs français, on les oublie dès qu'ils ferment le rideau. Donc aujourd'hui, prenons acte, prenons rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait demain ensemble pour les accompagner, les aider à déjà être informés, se structurer et aller de l'avant? C'est alors ça mon discours d'aujourd'hui.
L'appel est lancé. Pour autant, ça c'est demain. En tout cas, on espère. Il ne faut pas que ça aille trop tard, mais c'est demain. Pour autant, il y a aujourd'hui et il y a quand même des solutions.
Il y a des solutions qui existent.
Mais qu'on continue d'ignorer. C'est pour ça que je me permets de les faire rappeler.
Aujourd'hui, il y a par exemple l'ATI qui est une promesse de...
Expliquez ce qu'est l'ATI, tout le monde ne connaît pas.
C'est l'allocation, en fin de compte, pour les indépendants. C'est l'entreprise, s'ils sont passés par une défaillance d'entreprise, par une liquidation, ils peuvent soumettre un dossier à Pôle emploi pour avoir 800 euros pendant 6 mois. C'est toujours mieux que rien. Et aujourd'hui, le drame, c'est dramatique. 22 000 personnes y sont passées, moins de 2 300 dossiers à Pôle emploi. Sur ces 2 300, il y en a 800, Philippe, qui sont toujours en étude de dossiers.
Par manque d'équipe, par manque de trop de dossiers, pas assez.
On a des discussions aujourd'hui avec le conseiller spécial au niveau du ministère de Monsieur Griset pour essayer de comprendre, d'aller plus loin, de dire il y a l'instant d'aujourd'hui, aidons-les, ils sont tombés, ils sont là, on s'occupe. Vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait des gens. Il y en a qui vont faillir, il y en a qui vont tomber. Ben il faut qu'on s'en occupe. Dans plus de 30% des cas, ces gens-là en plus recréent derrière. Redéveloppe. Encore faut-il qu'ils aient à manger dans leur frigo, qu'ils aient la capacité de rebondir.
Les rebondisseurs qu'on évoquait tout à l'heure. Et GSC existe pour autant, il faut le rappeler, c'est une assurance que l'on peut prendre quand on va bien, justement,
voilà. C'est ça où c'est positif.
C'est important de le rappeler. Pour ceux qui vont bien, prenez une assurance.
Pour ceux qui vont bien, vous prenez une assurance. Psychologiquement, ça vous aide déjà.
C'est pas très cher, c'est pas plus cher que pour ses propres salariés.
Ça coûte moins cher que pour ses propres salariés. Ça vous permet de mieux dormir. Ça vous permet de prendre les décisions quand vous êtes en crise de façon beaucoup plus sereine et posée pour réagir, rebondir et ne pas faillir. Ce n'est pas une patte de lapin, mais ça aide énormément à réussir.
Il nous reste à peine 45 secondes, Philippe Crevel. Juste un commentaire. Vous avez vu réagir à quasiment tout ce qui vient d'être dit. Vous avez 45 secondes pour réagir.
Il a dit oui à tout. Je dis oui. Non, ce qui est important, c'est évidemment le conseil. Et on voit bien que dans cette période extrêmement difficile, délicate, le risque, c'est l'isolement. À la fois parce que le confinement incite à l'isolement, ou plutôt on est obligé au confinement. Mais on voit bien que ce soit les commissaires aux comptes, les experts comptables ou l'association GAC, il y a évidemment, et je parlerai également des assureurs et d'un groupe de protection sociale comme AG2R, la mondiale, il y a aujourd'hui une somme d'acteurs qui sont au service en fait des entreprises et des PME pour à la fois glaner l'information et les conseiller sur les modalités à la fois pour survivre ou pour le cas échéant à faire face à une situation extrêmement compliquée. Et donc je crois qu'il faut surtout dire aux chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de faire appel à l'ensemble des conseillers auxquels vous avez le droit.
N'ayez pas peur et surtout parlez des difficultés, partagez, il y a des solutions partout. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Anthony Streicher, président de GSC. Merci Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Merci Yannick Olivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et merci Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. C'est la fin de ces spéciales PME, Impact PME, les experts se mobilisent. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques jours, d'ici deux jours, pour une nouvelle édition de Impact PME, l'hebdo. Bonne journée à tous. À très vite. Ciao.
Journée spéciale Impact PME avec la CPME sur BFM Business.